Bonjour, mes frères et sœurs. Vous savez, nous sommes à quelques jours seulement de l'un des moments les plus spéciaux de l'année pour le peuple de Dieu, à savoir la fête des tabernacles. Je pense donc que mon message d'aujourd'hui tombe à point nommé. Nous savons où nous en sommes sur le plan prophétique, à quel point nous sommes proches et à quel point nous voulons que le royaume vienne. J'espère donc que mon message aura, à court terme et dans le temps qui nous reste, l'impact que je souhaite lui voir avoir. Il y a plusieurs années, j'ai donné une étude biblique intitulée Soyez profitable à Dieu. J'ai commencé cette étude en me référant au chapitre 22 du livre de Job, et j'aimerais le faire à nouveau. Ouvrons le chapitre 22 du livre de Job pour commencer. La plupart d'entre nous connaissent bien l'histoire de Job. Pour tester Job et son engagement envers Dieu, Dieu a permis à Satan de dépouiller Job de tout ce qu'il avait accumulé en une seule journée. Job a perdu toute sa richesse matérielle. Sa fortune était si grande qu'il était considéré comme le plus grand de tous les hommes de l'Orient. La question que nous pourrions nous poser est la suivante: sa fortune spirituelle ou son profit envers Dieu était-il aussi élevé? La plupart des chapitres du livre de Job sont consacrés aux échanges entre Job et ses amis. Ils spéculent et débattent sur les raisons pour lesquelles toutes ces choses lui arrivaient, pourquoi il avait perdu toute sa richesse. Puis nous arrivons au chapitre 22. Chapitre 22 de Job. L'un des trois amis de Job, Eliphaz, a posé une question intéressante, et c'est cette question que j'avais posée lors de cette étude biblique il y a des années. Et nous n'avons examiné que la première partie de la question. J'ai demandé combien d'entre nous avaient déjà remarqué cela. Dans Job 22, verset 2, Eliphaz demande: un homme peut-il être profitable à Dieu? Je me suis arrêté là, pour ainsi dire, et j'ai répondu oui. Oui, un homme ou une femme peut être profitable à Dieu, sinon la question n'aurait jamais été posée. Si Dieu pose une question dans la Bible, c'est parce qu'il y a une réponse affirmative ou négative. De nombreux passages bibliques nous montrent, et c'était une grande partie de l'étude biblique, l'importance de la rentabilité lorsqu'il s'agit de ce que Dieu attend de nous. Mais je voudrais aborder la deuxième partie de la question. Parce que nous avons longuement discuté de ce à quoi ressemble l'utilité, de la manière dont nous pouvons aller au-delà, et puis je me suis dit, en méditant là-dessus, en y repensant, attendez une seconde. Commençons par le commencement. Passons à la deuxième partie de ce verset. Il a poursuivi la question: un homme peut-il être profitable à Dieu, comme celui qui est sage peut être profitable à lui-même? Mes frères, laissez-moi vous poser la question ainsi. Sommes-nous profitables? Pas rentables. Avons-nous la capacité de générer des profits pour Dieu? Encore une fois, laissez-moi vous poser la question ainsi. Sommes-nous profitables envers Dieu? Au fil des nombreuses années où j'ai occupé divers emplois, j'ai commencé, en fait, quand j'étais jeune garçon, à livrer des journaux à différents foyers, mais quand je suis allé à l'université, mes parents n'avaient pas les moyens de payer mes frais de scolarité. Ainsi, même pendant la saison de football, j'avais parfois un ou deux emplois pour pouvoir financer mes études. J'ai travaillé dans la salle du courrier pendant 4 ans et j'ai distribué le courrier dans les différents départements du campus ici, dans le nord et de l'Oyon, dans l'une des universités de la région. J'ai également travaillé dans une pharmacie. J'ai travaillé dans une boucherie. Vous pouvez le dire, j'ai pratiquement tout fait. Plus tard, alors que je terminais mes études et que j'entrais en dernière année, j'ai été embauché pour un stage chez Frito-Lay. J'ai travaillé dans une pizzeria franchisée nationale située près du campus, juste pour vous donner une idée de la qualité de la main-d'œuvre à l'époque. En peu de temps, J'ai été promu responsable de nuit à l'âge de 21 ans. Cela vous donne une idée de la qualité de la main-d'œuvre à l'époque. Mais j'ai continué et j'ai étudié le commerce, puis j'ai finalement été embauché par une multinationale après avoir travaillé à l'étranger pendant de nombreuses années. Au cours de ces années, le concept le plus compliqué que j'ai dû apprendre, ce que les professeurs et les managers ont essayé de m'enseigner, c'était la rentabilité. La rentabilité. Qu'il s'agisse de faire une pizza, de décharger un camion, de déplacer les paquets de chips du fond vers l'avant des rayons afin de toujours proposer aux clients les chips ou les snacks qui étaient déjà là avant de leur proposer les produits les plus frais. Cela peut sembler contre-intuitif. On veut leur proposer les produits les plus frais. Mais pourquoi faire ainsi? J'ai dû comprendre tout cela. Que je gère des opérations à Washington DC, que je voyage en Europe ou que je travaille sur un projet en Inde pendant 2 ans, quoi que je fasse, j'ai appris que l'important n'était pas le chiffre d'affaires que nous générions. Il ne s'agissait pas des dépenses que nous engagions, mais du bénéfice que nous réalisions à la fin de la journée. Et voici le secret. Voici ce que j'ai découvert au cours de toutes ces années, et je vais le partager avec chacun d'entre vous, certains d'entre vous qui étudient peut-être le commerce. Voici le secret. La rentabilité d'une organisation commence avec chaque employé. La rentabilité commence avec les concierges ou le responsable de la maintenance. La rentabilité, le succès et la réalisation de la rentabilité commencent avec le trieur de courrier, le jardinier, les comptables, les experts comptables. La rentabilité commence avec les secrétaires, les managers, les directeurs, les vice-présidents, et pas seulement avec le PDG ou les actionnaires. Chacune des personnes que j'ai citées, chacune d'entre elles, doit se conditionner pour contribuer au résultat net. Les entreprises les plus prospères suppriment des postes et licencient les personnes qui ne le font pas. Si elles ne contribuent pas à la rentabilité, si elles ne se conditionnent pas ou ne sont pas formées et ne prennent pas de mesures rentables pour que l'entreprise puisse finalement réussir financièrement. Cela peut sembler dur, de toujours se concentrer sur le résultat net, mais quand on y réfléchit, Dieu n'est pas différent. Tous ceux qui travaillent dans l'entreprise du Père doivent développer ces compétences lucratives. Que nous dit donc la Bible sur le fait de devenir des serviteurs rentables, et pas seulement des serviteurs profitables? Dieu veut des personnes qui génèrent des profits grâce au talent qu'il nous a donné. Que dit donc la Bible à ce sujet? Ouvrons Matthieu chapitre 25. Matthieu chapitre 25. Car nous allons répondre à cette question. Nous allons examiner les passages bibliques qui nous expliquent comment devenir des chrétiens rentables, générateurs de profits. Car vous ne pouvez pas faire plus que nécessaire tant que vous n'avez pas appris à faire suffisamment, si cela a du sens. Vous ne pouvez pas aller au-delà tant que vous n'avez pas fait ce qui est fondamental et nécessaire. Nous allons donc nous tourner vers Matthieu chapitre 25, un récit que nous connaissons très bien, et nous allons nous pencher sur un verset que je n'ai pas lu pendant cette étude biblique. Matthieu chapitre 25, verset 14. Car le royaume des cieux est semblable à un homme qui, partant pour un voyage lointain, appela ses serviteurs et leur remit ses biens. Nous savons où ce récit s'inscrit dans le tableau prophétique. Mais nous pouvons en tirer des leçons qui s'appliquent à nous, mes frères. Nous connaissons très bien ce récit. À partir du verset 15, si vous le lisez, un serviteur reçoit 5 talents, un autre en reçoit 2, et le troisième en reçoit 1 de son maître, et Dieu a donné à chacun selon ses capacités. Nous avons donc tous des talents donnés par Dieu. Nous avons tous des compétences qui peuvent être utilisées par Dieu. Nous ne parlons pas ici des talents, mes frères. Nous parlons de la manière dont nous pouvons utiliser ces talents de la manière la plus efficace ou la plus profitable. Au verset 16, le premier serviteur a pris les 5 talents et en a fait 5. De même, le deuxième serviteur a pris ses 2 talents et les a doublés. Mais nous savons ce qui est arrivé au troisième. Il a pris son seul talent et l'a enterré. Et voici ce qui se passe ensuite, au verset 19, après un long moment, le maître de ses serviteurs revient et rencontre avec eux. Au premier, au verset 21, le maître dit, « C'est bien, bon et fidèle serviteur. Tu as été fidèle dans peu de choses, je te confierai beaucoup. Entre dans la joie de ton maître. » Au deuxième, au verset 23, le maître lui dit, « C'est bien, bon et fidèle serviteur. Tu as été fidèle dans peu de choses, je te confierai beaucoup. Entre dans la joie de ton maître. » Et puis au verset 24, celui qui avait reçu un talent vint et dit, « Maître, je te connaissais, tu es un homme dur, qui moissonne où tu n'as pas semé. » Réfléchissez à cela. Dieu se décrit lui-même. Et le serviteur le connaissait et savait cela à son sujet. Tu moissonnes là où tu n'as pas semé et tu récoltes là où tu n'as pas répandu. J'ai eu peur et je suis allé cacher ton talent, le talent que tu m'as donné, dans la terre, dans ma vie. Et je dirais qu'au moins, il avait assez de bon sens pour savoir qu'il s'agissait de talents donnés par Dieu, ou qu'il avait reçu un talent donné par Dieu. Ce n'était pas quelque chose qu'il avait développé. Nous avons tous, encore une fois, des talents donnés par Dieu, qu'il s'agisse d'un seul ou de plusieurs. C'est un excellent point de départ que de reconnaître que Dieu nous donne des talents. Et il dit ici, « Prends ce qui t'appartient. » Et il n'a rendu que ce qu'il avait reçu. Et Christ l'a qualifié de serviteur mauvais, paresseux et inutile. Il l'a ensuite fait jeter dans les ténèbres extérieures. Mais je voudrais que vous remarquiez quelque chose juste avant que cela n'arrive. Cette parabole est plus profonde qu'il n'y paraît. Il ne s'agit pas seulement de multiplier nos talents, de développer nos compétences ou notre argent. Cela n'est pas mentionné directement, mais Christ y fait allusion. Verset 27. Tu aurais donc dû remettre mon argent au changeur, pas au serviteur. Au changeur, et alors, à mon retour, j'aurais reçu ce qui m'appartient avec un intérêt, un usurage. Maintenant, quelles compétences les changeurs, mes frères, avaient-ils que ce serviteur n'avait peut-être pas? Y avez-vous déjà réfléchi? Il recommande en fait que si vous aviez donné ce talent que je vous ai donné aux changeurs, qui ne sont pas vraiment mes serviteurs, ils ont certaines compétences qui auraient généré suffisamment pour probablement payer leur subsistance, payer leur salaire, peut-être ceux de tous ceux qui travaillaient pour eux, et en plus de cela, donner des intérêts. Et je suis sûr que les changeurs d'argent n'étaient pas dans les affaires pour perdre de l'argent. Ils auraient donné des intérêts à ce maître et auraient réalisé un certain profit par la suite. J'ai régulièrement traité, et je traite régulièrement, avec les banques auxquelles l'Église fait appel. Et très rarement, nous négocions certaines choses, des prêts bancaires, ce genre de choses, et à certaines occasions, lorsque les négociations devenaient un peu délicates et un peu difficiles, je devais leur rappeler que leur salaire, leurs frais de fonctionnement et leurs bénéfices provenaient tous, étaient payés et étaient générés par les fonds que nous déposions dans leurs institutions. Et cela suffisait à les arrêter un instant. Donc, il comprend. Sans notre argent, ils ne pourraient pas faire tout cela. Ils ne pourraient pas payer leur salaire, couvrir leurs frais de fonctionnement, générer des bénéfices sans cet argent, ni nous verser des intérêts avant d'avoir généré ses bénéfices. Tout banquier digne de ce nom, s'il ne possède pas les compétences nécessaires pour générer des bénéfices, mène sa banque à la faillite. Les banquiers peuvent posséder tous les talents du monde. Je suis sûr que certains d'entre vous, s'ils rencontraient un banquier, diraient « Oh là là, c'est quelqu'un de talentueux ». Mais si cette personne n'a pas les compétences et la capacité de générer des profits, en d'autres termes, si elle n'est pas formée et conditionnée pour générer non seulement suffisamment, mais plus que suffisamment, elle échouera aussi. Il en va de même dans la vie, mes frères, avec les serviteurs de Dieu. Nous devons d'abord apprendre à faire suffisamment, ce qui nous prépare à faire plus que suffisamment. Et ici, le serviteur inutile n'a pas fait suffisamment, et encore moins plus que suffisamment. Et sa fin en témoigne. Revenez en arrière, relisez-le et réfléchissez-y dans cette perspective. Il n'est jamais devenu rentable. Il n'a jamais développé la capacité de générer des profits. Et il a été rejeté. Et nous, alors? Et nous, frères? Passons au chapitre 3 de l'Épître aux Romains. Le chapitre 3 de l'Épître aux Romains, car nous avons tous eu un début lorsque nous avons découvert la vérité. Le chapitre 3 de l'Épître aux Romains. Romains 3, verset 9. Qu'en est-il alors? Sommes-nous meilleurs qu'eux? C'est une phrase que j'aime beaucoup, car j'essaie toujours de me rappeler que je ne suis pas meilleur que ceux qui n'ont pas encore été appelés. Je suis simplement mieux loti. Il y a une différence. Et Paul, avec son parcours, dit la même chose. Qu'en est-il alors? Sommes-nous meilleurs qu'eux? En référence aux Juifs ou aux serviteurs dans Matthieu 25, je dirais. Israël. Non, en aucune façon, car nous avons déjà prouvé que les Juifs et les gentils sont tous sous le péché. Il n'y a pas de juste, pas un seul. Nous connaissons ce verset biblique presque par cœur, j'en suis sûr. Pour certains d'entre vous, c'est un verset à mémoriser. Personne ne comprend. Personne ne cherche Dieu. Tous se sont égarés. Ils sont tous devenus quoi? Inutiles. Ce mot « inutile » ne signifie pas un résultat négatif après avoir considéré les avantages et les inconvénients, les revenus et les dépenses. Ce n'est pas ce que ce mot signifie. Notre point de départ, mes frères, ce mot signifie « sans utilité », ce qui signifie qu'aucun d'entre nous n'était même en relation avec le Père avant qu'il ne nous appelle. Laissez-moi le dire ainsi. Nous étions totalement incapables de faire quoi que ce soit d'utile pour Dieu. Incapables d'en faire assez, et loin d'être capables d'en faire plus qu'assez. Nous ne recherchions pas Dieu. Nous avons tous péché. Et nos vies étaient tout sauf agréables ou, dans ce cas, profitables à Dieu. Mais tout cela a changé lorsque nous avons été appelés, n'est-ce pas? Tout a changé. Nous sommes devenus profitables dans tout ce que nous faisions, Ésaïe 48. Ésaïe 48. Au moment où nous sommes sortis de l'eau lors du baptême, tout ce que nous avons fait était profitable à Dieu à partir de ce moment-là, n'est-ce pas? Faux. Quel que soit le nombre de talents que nous possédons, nous devons tous apprendre à développer les compétences nécessaires pour être profitables. Nous avions tous le même point de départ. Nous devons donc être enseignés, si nous voulons sincèrement apprendre, ce qu'il faut pour devenir des serviteurs profitables et faire plus que ce qui est attendu. Personne n'est une exception. Il n'y a pas une seule personne. Quel que soit votre QI, quelle que soit votre origine, nous devons tous être enseignés pour devenir des serviteurs profitables. Ésaïe 48, verset 17. Ainsi parle le Seigneur, ton Rédempteur, le Saint d'Israël, je suis le Seigneur ton Dieu, qui t'enseigne à quoi? À être profitable. Je t'enseigne à être profitable, dit Dieu. qui te conduit dans la voie que tu dois suivre. Mes frères, c'est là la différence entre nous et ceux que nous étions auparavant, ou le reste du monde. Nous avons le plus grand PDG de la planète, de l'univers. Il est prêt à vous enseigner et à m'enseigner individuellement, quels que soient nos antécédents, quel que soit le nombre de talents que nous avons. Il est prêt à vous enseigner personnellement, à vous personnellement, à vous personnellement et à vous personnellement, comment tirer profit. Pas seulement pour lui, mais pour vous-même. Seul Dieu peut nous enseigner à devenir rentable. Ainsi, nous pouvons à notre tour être rentables pour lui. Souvenez-vous de Job, comme les sages, d'où vient la sagesse? De Dieu. D'où viennent la connaissance et la compréhension de la manière de devenir des serviteurs rentables? De la même source que la sagesse, Dieu. Et l'apôtre Paul, qui a inspiré ce message, l'a expliqué à Timothée et à Tite. Il leur a dit ce dont ils avaient besoin avant de pouvoir commencer à être utiles à Dieu. Et c'est ce que nous allons examiner. Passons donc à la deuxième épître à Timothée, chapitre 3, et voyons ce que l'apôtre Paul a dit à Timothée pour qu'il devienne utile. Deuxième épître à Timothée, chapitre 3. Paul dit ici à Timothée que face à tout le mal qui existe dans ce monde, vous pouvez le lire du verset 1 jusqu'à la fin. Au verset 14, il dit ceci, « Continue dans les choses que tu as apprises et dont tu as acquis la certitude, sachant de qui tu les as apprises. » Et lorsque nous avons décidé de parler de la profitabilité, nous avons vu qu'il existe des instruments que Dieu utilise, mais qu'en fin de compte, c'est Dieu qui enseigne la profitabilité. Je lis donc, « Continue dans les choses que tu as apprises et dont tu as acquis la certitude, sachant de qui tu les as apprises, c'est-à-dire Dieu. Et que dès ton enfance, tu connais les saintes Écritures, qui peuvent te rendre sage à salut. » Attendez un instant. Certains d'entre vous se souviennent peut-être que leurs parents et grands-parents disaient à leurs enfants, « Fais quelque chose de ta vie. » Je me souviens que mes parents me disaient cela. « Mon fils, fais quelque chose de ta vie. » Je ne sais pas s'ils disent encore cela aujourd'hui. Ce n'est plus une priorité aujourd'hui. Mais Paul rappelle à Timothée qu'un facteur qui a contribué à ce qu'il devienne évangéliste est le fait que les Écritures l'ont aidé, lui ont appris à le devenir. Elles l'ont rendu sage. Les Écritures l'ont rendu sage, ce qui a contribué à ce qu'il devienne évangéliste. Maintenant, si l'apôtre Paul avait ajouté quelque chose sur le fait que les Écritures l'avaient aidé à devenir profitable à lui-même, cela nous aurait été d'une grande aide, n'est-ce pas? C'est pourquoi je vous ai interrompu. J'espère que vous n'avez pas lu plus loin. Verset 16, « Toute Écriture est inspirée de Dieu et utile. » Nous pouvons maintenant passer pour l'instant sur la doctrine, la réprimande, la correction et l'instruction dans la justice, et nous pouvons lire ainsi, « Toute Écriture est inspirée de Dieu et utile pour que l'homme de Dieu soit parfait, ou complet, parfaitement équipé pour toute bonne œuvre. » Maintenant, réfléchissons un instant à cette expression, « bonnes œuvres ». Dieu nous donne les Écritures, la Bible, mes frères, pour nous permettre de lui être utile. Comment cela nous rend-il utile, comme les serviteurs qui ont multiplié leurs talents? Comment les Écritures font-elles cela? Eh bien, nous pouvons revenir en arrière et insérer la doctrine, la réprimande, la correction et l'instruction dans la justice. Si nous ne permettons pas à Dieu de nous instruire et de nous conditionner par sa parole, par ses Écritures, nous ne pouvons pas nous développer et devenir finalement des serviteurs utiles. Cela peut sembler un concept simple, mais si vous vous installez confortablement et que nous allons passer en revue quelques exemples, vous verrez à quel point ce que je viens de dire est puissant pour chacun d'entre nous. C'est ce qui a fait le succès du Christ, le serviteur le plus profitable qui ait jamais existé, qui existe et qui existera jamais. Il n'était pas une exception. Le mot « profitable » est ophelimo dans le dictionnaire Strong, et il n'est utilisé que 8 fois dans le Nouveau Testament. Excusez-moi, 4 fois. Le mot « profitable » apparaît 8 fois dans les Écritures, mais il est utilisé dans d'autres sens, comme lorsque Paul dit à Timothée d'amener Marc, qui lui est utile. Pas profitable, au-delà de cela, mais utile. Ils utilisent donc le mot « profitable » pour traduire « utile » en grec. Mais ici, ce mot particulier est utilisé 4 fois. Il vient de « ophelo », qui signifie « amasser »,« empiler »,« accumuler »,« bénéficier », »,« gagner », »,« obtenir un avantage » et, en fin de compte, « tirer profit ». Il y a une différence entre être utile. Il y a beaucoup de personnes utiles dans le monde, cela ne fait aucun doute, mais ces personnes, bien qu'elles soient utiles pour certaines choses, ne sont pas profitables envers Dieu. Ce mot est donc très important. Il signifie, encore une fois, amasser, accumuler, bénéficier, gagner, obtenir un avantage, faire des profits. Ainsi, mes frères, lorsque nous amassons et accumulons la parole de Dieu dans nos vies, nous lui permettons d'être avantageuse pour nous, de nous profiter, afin que nous puissions finalement profiter et gagner pour Dieu. Maintenant, pensez à la fête des tabernacles. À quel autre moment de l'année avons-nous cette dose concentrée et condensée de la parole de Dieu, des Écritures? Frères et sœurs, c'est pourquoi il est important que nous assimilions chaque service, ce que nous entendons à travers les messages. Peut-être parlez-vous à un ministre pendant la fête, et il vous donne des conseils tirés de la parole de Dieu. Tout cela a pour but de vous conditionner à devenir des serviteurs profitables. Frères et sœurs, nous ne pouvons aller au-delà de ce qui est écrit dans ce livre que si nous obéissons d'abord à ce qui y est écrit. Comment pouvons-nous aller au-delà de ce qui est dans ce livre? Eh bien, tout d'abord, concentrons-nous simplement sur ce qui est écrit dans ce livre. Faisons suffisamment pour pouvoir faire plus que suffisamment. Et frères, la doctrine est ce que Dieu exige au minimum. Elle différencie la vérité du mensonge. Les Écritures produisent la doctrine. Elles révèlent la véritable Église. Elle nous empêche de dériver en mer dans un monde de faux enseignements. Il y a une vague de christianisme due à l'assassinat de Charlie Kirk. Mais cette vague est un faux christianisme. Elle n'est pas fondée sur la vraie doctrine. Et par conséquent, nous savons que rien de tout cela ne produira des serviteurs utiles à Dieu. Pensez à la réprimande. La réprimande signifie simplement que quelqu'un vous fait remarquer où vous vous trompez. Mes frères, nous devons accepter la réprimande lorsque quelqu'un nous signale une erreur que nous avons commise. Pourquoi voudrais-je que quelqu'un me cache ou me dissimule mes erreurs? Maintenant, demandez-moi, il y a plusieurs années, avant que je ne découvre la vérité, je ne voulais entendre les critiques de personne ni que l'on me signale mes défauts, que ce soit ma femme ou mes enfants. Je ne voulais pas que quelqu'un me rappelle à l'ordre, comme on dit. Mais la réprimande est précieuse. Elle vous indique où vous vous trompez. Vous avez commis une erreur. Et tout cela vient des Écritures. Cela commence par les Écritures. La correction. La correction ne consiste pas seulement à vous dire ce que vous avez fait de mal, mais aussi à vous guider pour que vous fassiez ce qu'il faut. Et l'instruction dans la justice consiste simplement à vous donner le pouvoir de faire ce pour quoi vous avez été corrigé. De faire ce qui est juste. C'est aussi simple que cela. Le christianisme, dans son essence ou ses fondements, est très simple. Difficile à appliquer, mais très simple. Et l'instruction dans la justice, pensez-y de cette façon. Ce sont les documents de l'Église, les brochures, dans tous les domaines de notre vie, les livres, les conseils, les messages, même les conseils que nous nous donnons les uns aux autres. L'instruction dans la justice nous aide à faire ce qui est juste. Mes frères, tout cela est produit par la parole de Dieu. Il faut suivre le rythme. Nous devons persévérer, accumuler la doctrine, la réprimande, la correction, l'enseignement de la justice pour commencer à essayer de profiter à Dieu. Toutes ces choses nous rendent profitables. La loi de Dieu, mes frères, laissez-moi le dire très simplement. Ses commandements, ses statuts, ses jugements en sont le fondement. De ces quatre choses, Christ le savait et il l'a vécu. Et il l'a enseigné. Passons à Matthieu 5. Matthieu 5. Le sermon sur la montagne. Et nous allons aller au verset 17. L'un de mes passages préférés des Écritures. Ne croyez pas que je sois venu pour abolir la loi ou les prophètes. Je ne suis pas venu pour abolir, mais pour accomplir. Car, en vérité, je vous le dis, tant que le ciel et la terre ne passeront point, il ne disparaîtra pas de la loi un seul iota ou un seul trait de lettre, jusqu'à ce que tout soit accompli. Tu parlais à mon frère jumeau autrefois. Il s'intéressait à la vérité, posait des questions et parlait, tu sais, de la façon dont la loi avait été abolie. En gros, je vais résumer. Elle a été clouée sur la croix, ce qui dévalorise ce que Dieu a accompli. Je lui ai répondu en lui montrant les Écritures et en lui disant, vivons-nous toujours sur la même terre et sous le même ciel? Il m'a répondu, oui. Je lui ai alors dit, eh bien, tant que ceux-ci ne passeront pas, pas un iota, pas un trait de lettre ne passera de la loi, jusqu'à ce que tout soit accompli. Mes frères, vous savez, je m'écarte un peu du sujet, je fais une digression, mais il poursuit en disant, quiconque donc enfreindra l'un de ces plus petits commandements et enseignera aux hommes à faire de même, sera appelé le plus petit dans le royaume des cieux. Mais quiconque les accomplira et les enseignera, celui-là sera appelé grand dans le royaume des cieux. Car je vous le dis, si votre justice ne dépasse pas celle des scribes et des pharisiens, vous n'entrerez en aucune manière dans le royaume des cieux. Ce ne sont pas mes paroles. Ce sont les paroles du Christ. Le mot « excéder » fait référence à ce que Dieu attend en fin de compte au-delà de ce qui est exigé ou commandé. Christ le savait. C'est ce dont traite tout ce chapitre. Il parle de faire plus que ce qui est exigé, d'aller au-delà et d'être profitable. C'était une partie importante de l'étude biblique que j'ai donnée. Mais ne manquons pas quelque chose d'important. Les scribes et les pharisiens n'utilisaient pas la loi de Dieu pour profiter à Dieu, mais seulement pour eux-mêmes. Ils ne sont pas passés au niveau supérieur. C'est pourquoi Paul, qui était lui-même pharisien, a dit que la loi de Dieu devait être utilisée pour aller au-delà du minimum exigé par Dieu. Nous le savons tous très bien. Donc, pour éviter de nous mettre en colère les uns contre les autres sans raison, comme le disent les versets 21 à 26, nous devons d'abord convenir que nous ne devons pas tuer. Eh bien, monsieur Houg, c'est facile. Je n'ai pas dit qu'il était difficile d'accepter le commandement « tu ne tueras point ». Si nous voulons éviter de convoiter quelqu'un, ce dont il est question dans les versets 27 à 30, nous devons d'abord croire que l'adultère et la fornication sont mauvais. C'est facile, mais peut-être pas pour tout le monde. Mais il est difficile d'aimer nos ennemis, de bénir ceux qui nous maudissent, de faire du bien à ceux qui nous haïssent ou de prier pour ceux qui nous exploitent si nous n'obéissons pas au commandement d'aimer notre prochain comme nous-mêmes. Vous devez y croire. Vous devez vous y engager avant de pouvoir faire toutes ces autres choses. Nous devons nous aimer les uns les autres et croire que c'est un commandement avant de pouvoir aimer nos ennemis, ce qui est déjà plus cassé. Vous voyez, il suffit de s'aimer les uns les autres. Nous rendons-nous profitables? En d'autres termes, nous conditionnons-nous en nous aimant les uns les autres chaque jour? Et je pense que la réponse est oui, nous pouvons grandir et nous développer dans ce domaine. Mais si nous ne le faisons pas, mes frères, vous comprenez le minimum? Si nous ne le faisons pas, comment pourrions-nous commencer à accomplir la partie qui va au-delà de ce qu'est le christianisme et aimer nos ennemis? Pensez-y de cette façon. La base de tous ces exemples qui vont au-delà dans les versets 17 et 19 est là où vous le verrez. C'est là que se trouve la base. Tout commence par l'obéissance au commandement de Dieu, à sa loi. Il est impossible de dépasser ce que Dieu exige tant que nous n'avons pas appris et appliqué les bases de la parole de Dieu dans nos vies. Prenons l'exemple du respect du sabbat. Nous ne pouvons pas respecter le sabbat comme Dieu le souhaite si nous ne sommes pas d'accord sur le fait que le sabbat ne doit pas être enfreint. C'est très simple. Nous ne pouvons pas être généreux envers les autres si nous n'acceptons pas d'abord de ne pas prendre ce qui ne nous appartient pas, ou en d'autres termes, de ne pas voler quelqu'un. Tu ne voleras point. Si vous êtes d'accord avec cela, c'est la base et le fondement qui vous permettront de devenir une personne généreuse, qui mène une vie de partage. Il n'y a rien dans le commandement qui dise « tu ne voleras point ». Il n'y a rien sur le mode de vie généreux. C'est simplement que vous devez éviter le mode de vie égoïste avant de pouvoir commencer à vivre de manière généreuse. Pensez-y de cette façon, les points supplémentaires. Pensez aux points supplémentaires. Quand j'étais enfant et que j'allais à l'école, les points supplémentaires ne s'appliquaient qu'après avoir terminé mes devoirs et passé mes quiz et mes tests. Vous imaginez? Une de mes filles est enseignante dans une école primaire. Imaginez qu'un élève vienne lui dire « Madame Hook, j'ai répondu aux deux questions supplémentaires. » « Super, mais tu n'as pas rempli le test. Ta note est de 2 points au-dessus de 0. Je ne manquerai pas de le noter sur ton bulletin scolaire lorsque tu le ramèneras à tes parents. » Juste à côté du F que tu as obtenu. Non seulement le professeur ne vous donnera pas de crédit supplémentaire, jeunes gens, si vous allez à l'université, mais vous devrez en plus redoubler le cours s'il s'agit d'un élément essentiel de votre spécialisation, de vos études. Qu'en est-il au travail? En général, nous accomplissons les tâches qui sont dans notre description de poste avant de dire, écoutez, patron, je pense que cette voiture Ford, ce véhicule, fonctionnera beaucoup mieux et sera beaucoup plus confortable pour les passagers. Et vous êtes sur la chaîne de montage et vous avez oublié de mettre les écrous et les boulons de la radio. La voiture est équipée de toutes sortes d'options, mais il n'y a pas de radio ou la transmission est manquante. Mes frères, nous devons faire l'essentiel avant de pouvoir offrir une rentabilité ou des moyens plus efficaces de faire les choses. Faites simplement votre travail. Et lorsque vous apprenez à faire votre travail, vous vous conditionnez au fil du temps à devenir rentable, que ce soit pour votre enseignant, votre professeur, votre mari, votre femme, vos enfants, votre travail. En tant que serviteur de Dieu, mes frères, faire des efforts supplémentaires ou travailler pour Dieu ne compte pas si nous ne faisons pas d'abord ce qui est requis. Les Écritures nous aident à atteindre et à maintenir le minimum. Et à mesure que nous accumulons les Écritures dans notre vie, que nous étudions la doctrine, que nous nous ouvrons à la prise de conscience de nos erreurs et à la correction et aux conseils ou instructions sur la justice, nous devenons des enfants de plus en plus rentables pour Dieu. Mais nous ne pouvons rien faire de tout cela. Je pourrais. Passons au chapitre 6 d'Éphésiens, pour donner un exemple ici. J'aurais pu me reporter à la partie concernant les maris et les femmes, je pourrais parler du mariage et du minimum exigé par Dieu, mais ce sera pour une autre occasion. Mais je vous dirai, Marie, allez lire les Écritures sur le minimum requis. Mesdames, allez voir ce que les Écritures vous disent en termes de minimum requis envers votre mari. Tout cela est requis avant que vous puissiez, ce qui est également requis, aller au-delà dans votre mariage en tant qu'épouse envers votre mari ou en tant que mari envers votre femme. Mais je tiens à souligner le passage suivant, car il fait référence au Christ. Éphésiens chapitre 6, verset 1, un passage très simple. Cela s'applique à nous tous. Cela ne concerne pas seulement les jeunes qui écoutent ici. Enfants, obéissez à vos parents dans le Seigneur, car cela est juste. Verset 1. Honorez votre père et votre mère, ce qui est le cinquième commandement, mais le premier avec une promesse, afin que tout aille bien pour vous et que vous viviez longtemps sur la terre. Eh bien, monsieur Hook, je veux que mes parents soient heureux et qu'on prenne soin d'eux. Moi aussi. Mais je demande, vraiment. Oui, je choisis toujours les meilleures cartes pour la fête des pères et la fête des mères. Et ma question est la suivante, eh bien, si vous faites cela, si vous choisissez les meilleures cartes pour la fête des pères et la fête des mères, rangez-vous toujours derrière vous à la maison. Lorsque vous salissez une assiette, la nettoyez-vous. Rangez-vous derrière vous dans votre chambre afin que vous puissiez laisser votre porte ouverte et que toute personne passant devant puisse dire « Oh, voilà un jeune homme qui fait ce qu'il faut dans la maison. » Qu'en est-il du cinquième commandement? Si vous posez la question à des jeunes, voire à des adultes, ils vous répondront « Quel est le cinquième commandement ?» Comment pouvez-vous être utile à vos parents si vous ne savez même pas ce qu'est le cinquième commandement? Parlons-nous et traitons-nous nos parents ou beaux-parents, car eux aussi comptent, avec honneur. C'est le minimum. Nous devrions garder les cartes et l'argent si nous ne les honorons pas. Parce que les crédits supplémentaires ne comptent pas. Je pourrais donner à mes parents, chaque fête des pères, chaque fête des mères et chaque anniversaire, 100 ou 200 dollars pour qu'ils puissent s'amuser. Mais si je ne les honore pas chaque jour conformément au commandement, à ce que disent les Écritures, si je ne fais pas le minimum, je ne génère aucun profit pour Dieu ni pour mes parents d'ailleurs. Dieu veut que nous obéissions à nos parents dans les petites choses. Savez-vous pourquoi? Parce que cela nous apprend à devenir profitables. Pourquoi Dieu voudrait-il que nous fassions cela? Eh bien, cela pourrait être un bon indicateur de la façon dont nous le traiterons en tant que père. Tout cela nous ramène à lui. Passons au chapitre 2 de Luc, car j'ai dit que je voulais me référer au Christ et voir s'il est un exemple de ce dont nous parlons. Chapitre 2 de Luc. Nous savons que Christ n'a jamais péché, sinon nous n'aurions pas de sauveur. Christ a grandi dans une famille dont les parents vivaient selon la loi du Seigneur. C'est ce qui est dit dans Luc chapitre 2, verset 39, car ils obéissaient au commandement de respecter le jour saint. Et on peut supposer que la relation du Christ avec eux lorsqu'il était enfant le conditionnait à devenir utile, un serviteur utile envers son Père céleste. Luc chapitre 2, verset 41. Nous connaissons ce récit. Or, ses parents se rendaient chaque année à Jérusalem pour la fête de la Pâque. Et quand il eut 12 ans, ils montèrent à Jérusalem selon la coutume de la fête. Nous savons ce qui s'est passé. Joseph et Marie sont partis. Ils ont voyagé pendant une journée, puis ils se sont aperçus que Jésus n'était pas avec eux, et ils ont fait demi-tour pour retourner à Jérusalem. Cela fait donc 2 jours. Leur jeune fils de 12 ans s'est perdu dans une grande ville à cette époque. Pouvez-vous imaginer cela? Joseph et Marie l'ont finalement retrouvé au bout de 3 jours, dit le récit. Et je peux entendre sa voix respectueuse dire doucement, voyant qu'ils étaient paniqués et inquiets que leur fils de 12 ans soit perdu. Et il dit au verset 49, « Pourquoi me cherchiez-vous ? Je m'occupais des affaires de mon père dans le temple. » En d'autres termes, « Ne vous inquiétez pas, maman et papa. Je suis en sécurité. Je m'occupais du père dont vous m'avez parlé toute ma jeunesse. Je ne sais pas si cela les a soulagés, peut-être davantage le père, c'est mon fils, seul pendant 3 jours à Jérusalem, dans une grande ville. Et la mère qui dit, « Ne me refais plus jamais cela. Tout est beau et merveilleux. » Pourquoi Luc se serait-il donné la peine de rapporter cela, mes frères ? Voici ce qu'il dit, et il retourna avec ses parents à Nazareth et leur était soumis. Christ connaissait déjà son vrai père. Mais il connaissait aussi le commandement que ce père lui avait donné, qui était d'honorer son père et sa mère. Christ honorait ses parents selon le 5e commandement. C'était le minimum. Mais est-il allé au-delà ? Oui. Jean, chapitre 19. Christ s'est conditionné encore et encore à être profitable lorsqu'il s'agissait d'honorer son père et sa mère, car il savait que le père exigeait, demandait le profit. Je suis sûr qu'il l'avait lu dans Job lorsqu'il était enfant. Il avait lu Ésaïe 48 à l'âge de 12 ans. Que cela vous serve de leçon, jeunes gens. Jean 19, Christ est-il allé au-delà ? S'est-il conditionné en se soumettant à ses parents, comme il est dit ici, au point d'aller au-delà ? Que le Père ait dit, je ne l'exigeais pas, mais waouh, si je peux m'exprimer ainsi. Verset 25. Or, près de la croix ou du poteau de Jésus se tenait la mère de Jésus. Elle est là. Et la sœur de sa mère, Marie, femme de Cléophas, et Marie-Madeleine. Et quand Jésus vit sa mère et le disciple, se référant à lui-même, Jean, qu'il aimait avoir à ses côtés, il dit à sa mère, « Femme, voici ton fils. » Puis il dit à Jean, « Voici ta mère. » Et à partir de cette heure, à partir de cet instant, ce disciple l'a pris chez lui. Maintenant, j'ai cherché, pas de manière exhaustive, car je connais assez bien les Écritures. Je ne trouve nulle part dans les Écritures où Dieu aurait ordonné à Christ de prendre soin de sa mère après sa mort. Christ s'est tellement et si souvent imposé d'honorer sa mère que, malgré la crucifixion, malgré la douleur et l'agonie, malgré l'approche de son dernier souffle, mes frères, la vie de Christ ne se résumait pas à accomplir ce que les Écritures disaient de lui. Christ a parfaitement développé un esprit ou un état d'esprit propice au profit qui a brillé, qui a été brillant à ce tout dernier moment. Une dernière fois, il a donné plus qu'il n'en fallait, plus que ce que Dieu exigeait. Christ était l'incarnation même du faire plus, mais il n'est pas devenu ainsi par magie, si je puis m'exprimer ainsi. Il s'est conditionné à obéir au 5e commandement encore et encore, encore et encore, encore et encore, encore et encore, encore et encore. Et ne manquez pas ceci, Jean n'a pas hésité non plus. Il n'était pas obligé d'accueillir Marie, et il ne l'a pas fait simplement jusqu'à ce qu'il trouve une meilleure solution. Je vais le faire cette semaine, mais je vais trouver, vous savez, peut-être une meilleure solution. En d'autres termes, les 3 années que l'apôtre Jean a passées avec Christ, son temps avec Christ, par la parole, ces 3 années avec la parole, l'avaient conditionné à obéir non seulement à Exode 22, 22 à 23, qui dit « Tu n'affligeras point la veuve, ni l'orphelin. Si tu les opprimes de quelque manière que ce soit et qu'ils crient vers moi, je les entendrai certainement. » Jean le savait. C'était un principe fondamental des Écritures selon lequel il vivait. Je suis sûr qu'il l'avait appris du Christ. Dans Ésaïe 1 verset 17, apprenez à faire le bien, recherchez la justice, secourez l'opprimé, rendez justice à l'orphelin, défendez la veuve. Jean a fait le minimum, mais il n'a pas seulement défendu Marie, ce qui aurait été le minimum requis selon les Écritures, ce que Dieu enseigne parce qu'il est le maître de la rentabilité. Il a fait quelque chose qui allait au-delà de ce qui était requis. Il l'a accueilli chez lui. Mes frères, si, comme Jean, nous nous conditionnons quotidiennement avec les Écritures qui permettent la profitabilité, nous pouvons faire plus que ce qui est exigé, quoi qu'il arrive. Peu importe à quel point nous nous sentons fatigués, Dieu nous donnera la force et la puissance. Cependant, c'est la parole de Dieu. Rappelez-vous, elle est profitable. Toute écriture est profitable, afin que l'homme de Dieu soit complet. Mais la parole de Dieu ne suffit pas à nous rendre capables de générer des profits pour Dieu. Première épître à Timothée, chapitre 4. Première épître à Timothée, chapitre 4. Laissez les Écritures vous conditionner à devenir profitables en leur obéissant chaque jour. Et alors, vous irez plus loin que vous ne l'auriez jamais imaginé, jusqu'aux profondeurs dont parle Matthieu 5. Mais vous aurez besoin d'autre chose si vous voulez devenir un serviteur profitable. Première épître à Timothée, chapitre 4, verset 8, car l'exercice physique est peu profitable. C'est la quatrième fois que vous voyez ce mot dans le Nouveau Testament. Le même mot. Mais la piété est profitable à tout, ayant la promesse de la vie présente et de la vie à venir. Je pourrais le dire ainsi, mais la piété rend profitable à tout ou à travers tout. Nous sommes tous d'accord pour dire qu'il n'y a aucun domaine de notre vie qui ne relève pas du cadre de la parole de Dieu. On peut en dire autant de la piété. Mais qu'est-ce que la piété? C'est un terme assez noble. On ne l'entend jamais. On entend parler des Écritures. On entend parler de la Bible. On entend parler de la parole de Dieu. On entend dire ces choses-là. Mais la piété, qui parle de la piété? Qu'est-ce que la piété? Voici une façon simple de l'expliquer. Si vous voulez bien me suivre un instant. Si vous pouviez écrire ce qui suit, d'accord? C'est ainsi que je garde à l'esprit ce qu'est la piété pour moi. Écrivez G-O-D-L-I, la première partie, Godly. D'accord? G-O-D-L-I. Ensuite, j'aimerais que vous laissiez un espace et que vous écriviez l'ESS. Vous avez donc Godly, vous avez un espace, et vous avez Ness. Voici ce que je voudrais que vous fassiez, insérez simplement les deux lettres suivantes, K-E, mettez un K et un E à cet endroit. Maintenant, que cela donne-t-il? Godlikeness, ressemblance avec Dieu. C'est ainsi que vous pouvez prendre ce concept élevé de piété et le réduire à un niveau que vous pouvez comprendre, que nous pouvons facilement comprendre. La ressemblance avec Dieu, par définition, peut être définie comme le fait de ressembler à Dieu ou d'avoir les qualités de Dieu. Sans ressembler à Dieu, sans avoir les qualités de Dieu, mes frères, nous ne pouvons pas continuer à générer des profits pour lui. C'est le minimum requis. La piété, il y a un élément minimum à la piété. Deuxième épître de Pierre, chapitre 1. Si vous vous souvenez, dans la Genèse, Dieu a dit, « Faisons l'homme à notre image et à notre ressemblance. » Et je peux affirmer avec certitude que Dieu ne faisait pas seulement référence à nos attributs physiques, les yeux, le nez, les oreilles, les mains, les jambes, les pieds. Je suis sûr qu'il faisait également référence à son caractère. Il ne s'agit pas seulement de lui ressembler physiquement, mais aussi spirituellement. Deuxième épître de Pierre, chapitre 1, verset 1 à Simon Pierre, serviteur. Oh, voilà. C'est le chef des apôtres qui commence par se décrire lui-même, non pas comme apôtre, mais d'abord comme serviteur. Il se considérait donc d'abord comme un serviteur, puis il dit « et apôtre de Jésus-Christ ». C'est instructif. À ceux qui ont obtenu une foi précieuse comme la nôtre par la justice de Dieu et de notre Sauveur, Jésus-Christ, que la grâce et la paix vous soient multipliées par la connaissance de Dieu et de Jésus-Christ. Selon que sa puissance divine nous a donné tout ce qui concerne la vie et la piété par la connaissance de lui, qui vient des Écritures, qui nous a appelés à la gloire et à la vertu. Mes frères, réfléchissez au pouvoir et à l'impact que peut avoir sur un individu la connaissance de Dieu, qui un jour remplira toute la terre. Plus vous connaissez Dieu, plus vous pouvez vous comporter et penser comme lui, car c'est cela, la divinité. C'est la combinaison d'une pensée et d'une conduite divine. Et c'est une exigence minimale, car il est dit que la piété est source de profit en toute chose. Pierre établit cette puissante vérité sur la piété, en se qualifiant à nouveau de serviteur. Il ne voulait pas être comme le serviteur inutile. Il voulait être comme les serviteurs utiles, et bien meilleurs en termes de connaissances, de compétences et de capacité à générer des profits que les changeurs d'argent. Cela ne lui avait probablement même pas traversé l'esprit. Il dit ensuite quelque chose d'extraordinaire. Dieu nous donne tout ce dont nous avons besoin pour la vie et la piété par sa puissance divine, et c'est le Saint-Esprit, mes frères. Verset 4. Par lesquels nous ont été données les promesses précieuses et très grandes, afin que par elles, y compris la piété, vous deveniez participants de la nature divine, en échappant à la corruption qui est dans le monde par la convoitise. Mes frères, il faut l'Esprit de Dieu, qui est essentiellement l'essence même de Dieu, en nous pour pouvoir ressembler à Dieu et agir avec les qualités que Dieu possède également. Quel cadeau Dieu nous a fait à travers le Saint-Esprit. Vous voyez ce qui s'est passé récemment avec l'assassinat de l'activiste conservateur américain Charlie Kirk. Vous savez, il existe trois types de personnes en matière de piété. En tant qu'être humain, vous avez trois alternatives, si je peux le dire en termes simples. Vous pouvez être impie et avoir l'air impie, et vous pouvez le voir à travers l'assassin qui a perpétré ce mal sur cet homme, ou vous pouvez le voir chez son amant transgenre, que les médias grand public, ont présenté comme une sorte d'acte d'amour poétique, et qui ont essayé de défendre son amant transgenre pervers. Vous avez donc des personnes impies qui ont l'air et agissent de manière impie, mais vous voyez aussi cette vague de milliers, de dizaines de milliers de personnes dans un stade qui sont bien intentionnées. Je ne remets pas en question leurs intentions, car elles lèvent les mains et louent un faux Jésus et donnent leur vie à Jésus, mais je me demande, ces personnes et les millions qui regardent, vont-elles cesser de convoiter? Cesseront-ils d'être orgueilleux, impies ou d'avoir des affections contre nature? Car je suis sûr que ces personnes se trouvaient dans la foule. Ceux qui soutiennent Kirk cesseront-ils de pécher, chercheront-ils Dieu, poursuivront-ils la justice, ne convoiteront-ils plus et aimeront-ils Dieu plus que ce qui leur plaît? Voyez-vous, c'est ce que Paul a dit être encore plus dangereux. Des temps difficiles viendront, car ils auront l'apparence de la piété. C'est la deuxième option. Mais ils seront impies. Ils n'ont aucune piété. Ils font de bonnes choses et des choses gentilles, mais ils n'ont pas la piété. C'est donc votre deuxième option. Vous avez la première, qui est celle des personnes impies qui ont l'air et parlent de manière impie, et vous pouvez voir qu'elles sont impies, puis il y a celles qui ont une forme de piété, mais dont la conduite est tout aussi impie à bien des égards, Mais il y a ensuite la troisième, mes frères. Il y a les personnes pieuses, c'est-à-dire vous et moi. Les personnes pieuses qui ressemblent à Dieu et ont les qualités de Dieu. L'épître aux Romains est très claire. Je ne sais pas comment les gens peuvent passer à côté de cette partie de la Bible. La colère de Dieu se révèle du ciel contre toute impiété, pas une certaine impiété, mais toute impiété. Que vous ayez l'air pieux ou non n'a rien à voir avec cela. Dieu apporte sa colère, apportera sa colère au moment opportun pour toute impiété, que vous en ayez l'air ou non. Mais, mes frères, nous sommes reconnaissants d'avoir reçu l'Esprit de Dieu afin de pouvoir être semblables à Dieu, ce qui est, encore une fois, un minimum. Frères et sœurs, si nous voulons être pieux, voici deux choses sur lesquelles nous devons nous concentrer. Deuxième épître à Timothée, chapitre 2. Deuxième épître à Timothée, chapitre 2. Ce sont deux choses relatives à la piété qui répondent au minimum requis pour être pieux au sein de nos familles, parmi nos collègues, parmi nos camarades de classe et nos amis. Même vous, les jeunes, le Saint-Esprit agit en vous. Ceux qui sont baptisés ont l'Esprit de Dieu en eux. Deuxième épître à Timothée, chapitre 2, verset 14. Rappelez-leur ces choses. En tant qu'élu mentionné au verset 10. Devant le Seigneur. Ainsi, ces choses, mêlées. Les élus, nous. En mémoire, en les exhortant. En nous exhortant. Devant le Seigneur à ne pas se disputer sur des mots sans profit. Il y a là, encore une fois, un mot sur la profitabilité. Ce n'est pas utile. Mais pour subvertir les auditeurs. Efforce-toi de te présenter toi-même approuvé. S'adressant toujours à Timothée, il y a les Écritures. Efforce-toi toujours. Il s'adresse toujours à Timothée, l'évangéliste et les élus également, pas seulement lui. D'être approuvé. En d'autres termes, utile à Dieu. Un ouvrier qui n'a pas à rougir, qui dispense droitement la parole de vérité, mais qui évite les discours vains et profanes, car ils augmentent l'impiété. Maintenant, si vous y réfléchissez, c'est puissant. Une exigence minimale pour être semblable à Dieu est de fuir les discours profanes et vains, et si nous ne le faisons pas, il est dit qu'ils augmenteront l'impiété. Mes frères, même dans nos conversations, que ce soit après les offices, avant les offices, peut-être avez-vous une relation avec quelqu'un en particulier avec qui vous discutez régulièrement tout au long de la semaine, en particulier pendant la fête des tabernacles, mes frères, nous allons être vus par beaucoup de gens, et nous allons nous voir les uns les autres à un niveau que nous ne connaissons pas habituellement tout au long de l'année. Eh bien, il est dit d'éviter ou de fuir. Non seulement les conversations mondaines et vides sont impies, mais l'impiété qui sort de notre bouche peut s'intensifier et conduire à davantage d'impiété. Vous savez, mes parents me disaient, « Surveille ce que tu dis ». Je ne pense pas qu'ils comprenaient vraiment ce qu'ils disaient, ou du moins la portée de leurs paroles. Ce qu'ils me disaient essentiellement, sans le savoir, c'est « Si tu ne surveilles pas ce que tu dis, tes actions suivront de près. » Mes frères, si nous ne faisons pas attention et ne veillons pas à ce que l'impiété ou les paroles vaines ne sortent pas de notre bouche, cela augmentera et se propagera à d'autres domaines de notre vie. Nous devons donc faire attention lorsque nous parlons les uns aux autres. Pensées impies, paroles impies, nous devons avoir des pensées pieuses et des actions pieuses. Nous devons donc, au minimum, éviter les paroles impies dans notre vie. C'est le minimum. C'est avant de pouvoir aller au-delà avec notre piété. Passons à Tite 2. Tite 2. La deuxième chose que nous devons faire n'est pas seulement d'être prudent ou d'éviter les paroles impies dans notre vie, car nous savons que c'est de l'abondance du cœur que la bouche parle. et que l'impiété commence donc dans le cœur. Tite 2 dit ce qui suit, et le contexte ici est la saine doctrine. Au verset 1, la saine doctrine, encore une fois, revient au mot. Verset 12, nous enseignant à renoncer à l'impiété et aux convoitises mondaines, afin de vivre dans le siècle présent de manière sobre, juste et pieuse. Ainsi, non seulement nous devons éviter les propos impies, mais nous devons absolument renoncer à l'impiété, et ce mot « renoncer » est plus fort qu'il n'y paraît. Il est encore plus fort que « éviter » dans 2 Timothée 2. Peut-être que Tite avait besoin de l'entendre en termes plus forts que Timothée. Nous ne pouvons pas en être certains, mais il a certainement utilisé un mot plus fort ici lorsqu'il lui a dit « renonce à l'impiété ». Et je pense qu'il vaut la peine de lire la définition de ce mot « renoncer » pour bien comprendre ce dont nous parlons lorsqu'il s'agit d'impiété. La doctrine de la parole de Dieu nous enseigne qu'au minimum, nos vies doivent contredire l'impiété. Elle doit renier l'impiété. Elle doit rejeter l'impiété, et la définition dit renoncer à l'impiété. La rejeter totalement. La deuxième chose que nous devons donc faire pour nous conditionner à la piété est devenir des serviteurs prophétiques dans tous les domaines et de rejeter toute forme d'impiété. Mes frères, fuir et renier les choses impies dans notre vie, comme les bavardages mondains, et exercer la piété, est une exigence minimale de Dieu. Et lorsque nous exerçons l'Esprit de Dieu, car c'est de là que nous tirons notre nature divine, nous avons déjà établi ce lien, nous exerçons en fait la ressemblance avec Dieu ou la piété. C'est pourquoi c'est un outil si précieux parmi les 5 outils de la croissance chrétienne. Lorsque nous exerçons le Saint-Esprit dans notre vie, nous exerçons la piété, et si nous souffrons des persécutions pour cela, frères, tant mieux. Tant mieux. C'est comme la musculation. Vous ne pouvez pas, si vous êtes culturiste, vous ne pouvez pas espérer avoir de gros biceps, de gros pectoraux et de gros quadriceps sans appliquer de résistance, et Dieu permet la résistance lorsque nous essayons de vivre à l'image de Dieu dans nos vies, que vous soyez à l'école, au travail, à l'épicerie ou à la fête des tabernacles. Si vous rencontrez de la résistance ou des persécutions parce que vous portez un costume ou une robe tous les jours de la semaine, tant mieux. C'est la résistance que Dieu veut, car il veut que vous développiez et accumuliez la piété dans votre vie. Lorsque vous pouvez être semblable à Dieu malgré la résistance, vous devenez plus grand et plus fort, tout comme Dieu, et vous pouvez alors accomplir des choses qui dépassent votre imagination. Vous comprenez l'analogie? Si vous commencez à soulever des poids, avec le temps, vous allez soulever des poids que vous n'avez jamais soulevés auparavant dans votre vie. Lorsque vous exercez la piété ou l'Esprit de Dieu et que vous évitez les discours vains ou impies, et lorsque vous renoncez et rejetez totalement l'impiété dans votre vie malgré la persécution, malgré la résistance de tous ceux qui vous entourent, vous allez devenir plus fort, plus grand et plus semblable à Dieu. Personne n'a accompli cela mieux que Christ. Tout comme l'exemple que nous avons donné de son obéissance au 5e commandement pour se préparer à aller au-delà de lui-même à un moment critique de ses derniers instants, Christ l'a également fait dans le domaine de la piété. Passons à Jean 5. Nous allons le parcourir rapidement. Vous comprendrez ce que je veux dire. Il était l'image parfaite du Père. Jean 5. Les Juifs cherchaient à le tuer pour avoir enfreint le sabbat, soi-disant, en guérissant cet homme à la piscine de Bethesda. Et nous arrivons au verset 19. Jésus leur répondit, « en vérité, je vous le dis, le Fils ne peut rien faire de lui-même, il ne fait que ce qu'il voit faire au Père. Et tout ce que le Père fait, le Fils aussi le fait de même. » Mes frères, ce que Christ a fait était divin. C'était pieux. C'était la piété manifestée dans la perfection. Jean 12. Jean 12. C'est Christ qui parle du dernier jour, et il est dit que Jésus crie à tue-tête, presque en hurlant de toutes ses forces. C'est ce que signifie ce mot ici. Pensez à cette scène, imaginez peut-être les veines ou les artères de son cou alors qu'il crie avec une grande passion et une grande conviction, car je n'ai pas parlé de moi-même, mais le Père qui m'a envoyé. Il m'a donné un commandement, ce que je dois dire et ce que je dois parler. Ce qu'il a dit était divin, frère. Ce qu'il a dit était pieux, c'était la piété, et c'est ce qu'il a crié au peuple. Je n'ai pas parlé de moi-même, mais le Père qui m'a envoyé. Il m'a donné un commandement. Il m'a enseigné et m'a appris à tirer profit. Il m'a enseigné ce que je devais dire. Il m'a enseigné ce que je devais parler. Nous savons ce que Christ a dit à Philippe, qui a demandé à voir le Père, celui qui m'a vu a vu le Père. Maintenant, regardez ce qui est dit quatre versets plus haut, au verset 45 ici dans Jean 12, « Et celui qui me voit voit celui qui m'a envoyé. » Frères et sœurs, c'est notre but ultime. Nous rendons le Dieu invisible visible par notre piété, et nous le faisons en exerçant l'Esprit de Dieu. Christ a parfaitement combiné une pensée divine et une conduite divine. Je voudrais donc conclure par une troisième voie. C'était la deuxième voie. La piété fait de nous des serviteurs utiles. Les Écritures font de nous des serviteurs utiles, et ces deux éléments vont de pair. Cependant, cette troisième voie n'a aucun sens sans les deux premières, les Écritures et la piété, mais sans celle-ci, les deux autres n'ont que peu ou pas de sens. Réfléchissez-y. Quoi ? Je pourrais obéir aux Écritures et exercer l'Esprit de Dieu, mais si je n'ai pas cette troisième voie, cela signifie-t-il que je n'ai pas les deux autres ou qu'elles n'ont que peu de sens ? Tite, chapitre 3. Je vous ai dit que Paul a parlé à Timothée et à Tite des moyens de devenir des serviteurs utiles. Et le verset 8. Tite 3, verset 8. Cette parole est certaine, et ces choses. Et il fait référence à ce qui précède, être soumis aux autorités. Je veux que tu affirmes constamment que ceux qui ont cru en Dieu veillent à faire de bonnes œuvres. Pourquoi ? Pourquoi veut-il qu'ils veillent à faire de bonnes œuvres ? Si vous croyez en Dieu, dit-il, Tite, et dites ceci, dites à tous les saints, ils croient en Dieu et ils croient en ce qu'il vient de dire au sujet de l'obéissance aux autorités et tout cela, pourquoi leur dirait-il de veiller à faire de bonnes œuvres ? Pourquoi ? Parce que ces choses sont bonnes et profitables ou permettent aux hommes de devenir prophètes. Tout comme Dieu nous a donné les Écritures et des directives pour nous conditionner à devenir des serviteurs capables de prophétiser, il nous a également donné de bonnes œuvres. Éphésiens chapitre 2. Sans bonnes œuvres, mes frères, les deux autres n'ont que peu ou pas de sens. Éphésiens chapitre 2, un autre de mes versets préférés. Si jamais, et si vous travaillez au siège, vous n'avez pas souvent l'occasion d'y penser, mais si jamais je me demande, que puis-je faire ? Je ne sais pas ce que je devrais faire. Je n'ai rien à faire. Cela n'arrive pas très souvent ici, mais si jamais cela vous traverse l'esprit, que puis-je faire ? Quel est mon but ? J'ai ces talents. J'ai ces compétences. Éphésiens 2, chapitre 8, car c'est par la grâce que vous êtes sauvés, par le moyen de la foi, et cela ne vient pas de vous. C'est le don de Dieu. Ce n'est pas par les œuvres, afin que personne ne se glorifie. Car nous sommes son ouvrage, créé en Jésus-Christ. Dans quel but ? Quel est notre but ? L'un des principaux buts pour lesquels nous avons été créés en Jésus-Christ, pour les bonnes œuvres. Vous voulez une vie guidée par un but ? Découvrez quelles sont les bonnes œuvres que Dieu a placées dans votre vie, Car c'est exactement ce qui est dit, car ces choses sont bonnes et excusez-moi. Que Dieu a prédestinées, il les a préparées d'avance afin que nous marchions en elles. Je suis sûr que vous y avez déjà pensé, mais peut-être que certains d'entre vous ne l'ont pas fait. En réalité, Dieu nous a appelés ou choisis avant la fondation du monde, et il est dit que Dieu a prédestiné, fait ou mis en place de bonnes œuvres afin que nous les accomplissions à l'avenir, après avoir été appelés. C'est puissant. Dieu nous a donné de bonnes œuvres, et celles-ci sont le minimum requis. Dieu nous a donné de bonnes œuvres à pratiquer et à pratiquer encore, qui nous conduiront à être des serviteurs profitables. Pensez à être des citoyens respectueux des lois, à payer vos impôts, à respecter le code de la route lorsque vous vous rendez à la fête et que vous en revenez, lorsque vous vous rendez au culte ou que vous en revenez, à respecter les autorités, à faire preuve d'équité et d'intégrité au travail, à faire votre travail de manière responsable, à tenir vos promesses, à ne pas prendre de raccourcis, à être poli avec vos collègues. Ce sont toutes de bonnes œuvres. Elles sont requises. Vous pouvez les lire dans les Écritures. Je pourrais continuer. Je pourrais passer d'une chose à l'autre, l'une après l'autre. Respectez et être gentil avec vos voisins, aidez votre voisin âgé, subvenir aux besoins de votre famille. Mari, femme, remplissez vos rôles. Ce sont là les bonnes œuvres qui ont été prédestinées pour que vous les accomplissiez quotidiennement, et c'est le minimum. Ce n'est pas ce dont nous parlons ici. Faites votre part à la maison, enfants, à la fête. Nous devons d'abord convenir que la participation à tous les services et activités est une exigence. Que c'est une bonne œuvre. La communion fraternelle, cela, mes frères, est une exigence. Assister à toutes les activités, je l'ai dit, n'est-ce pas? C'est une exigence. Ce sont des traditions qui ont été mises en place. À moins d'être malade, ce qui est une bonne action, car il faut prendre soin de soi, et comme nous l'avons entendu dans le sermon, ce n'est pas la quantité qui compte, mais la qualité, afin que vous puissiez assister au service et vivre l'expérience. Toutes ces bonnes actions sont le minimum que Dieu. Maintenant, frères, nous sommes dans une position pour vivre ce que nous avons entendu plus tôt, une fête supérieure en allant au-delà. Supérieur signifie aller au-delà, mais nous devons faire le minimum et le mettre en pratique jour après jour, et Christ, encore une fois, est l'exemple même de l'utilisation de bonnes œuvres fondamentales permettant de réaliser des profits pour devenir le plus grand en dépassant ce que Dieu exigeait. Christ est notre exemple. Jean 21. Juste un ou deux versets pour conclure. Jean 21, verset 24. C'est ainsi que l'apôtre Jean conclut son évangile, et je pense qu'il est approprié que ce soit le dernier des quatre, Matthieu, Marc, Luc et Jean, car ce sont les tout derniers mots écrits dans les évangiles. C'est ce disciple qui rend témoignage de ces choses et qui les a écrites. Verset 24. Et nous savons que son témoignage est vrai. Et il y a encore beaucoup d'autres choses que Jésus. Quoi? A fait, qui, si elles étaient écrites une à une, je suppose que le monde lui-même ne pourrait contenir les livres qui seraient écrits. Amen. Ainsi soit-il. Pas seulement avec lui, mais avec nous. Nous ne crions pas Amen pendant les offices comme ils le font peut-être dans les églises pentecôtistes ou baptistes, mais dans votre cœur et dans votre esprit, vous devriez dire, « Ainsi soit-il avec moi. » Christ a accompli tout ce qui avait été prophétisé à son sujet dans les Écritures. Il n'y a pas une seule prophétie écrite dans les Écritures que Christ n'ait accomplie, mais je suis convaincu qu'il a fait plus, et qu'il l'a fait chaque jour. Personne avant, pendant ou après n'a surpassé, ne surpasse ou ne surpassera les bonnes œuvres de Jésus-Christ. Réfléchissez, où est-il écrit que Christ devait guérir toutes les personnes malades et infirmes dans tous les villages et toutes les villes? Où est-ce écrit? Il s'est conditionné à faire le bien dès son plus jeune âge, pendant son adolescence et au début de sa vie d'adulte, à tel point que lorsque le moment est venu, il a voulu aller au-delà, car il savait que le Père voulait que cela porte ses fruits. Où peut-on lire que Christ devait arrêter ce qu'il faisait pour bénir les enfants? Dieu a-t-il exigé du Christ qu'il nourrisse les 5 000 ou les 4 000 personnes? Elles n'étaient pas en train de mourir. Elles auraient pu se disperser, mais il les a nourries, et Dieu l'a honoré en lui accordant un pouvoir miraculeux. Dieu a-t-il exigé, pour le salut éternel de l'humanité, que Christ purifie les lépreux en les touchant? Parlons d'aller au-delà. Christ n'avait aucune obligation d'arrêter et de ressusciter le fils de la veuve, ou la fille de Jaïrus, ou Lazare, mais il l'a fait. Qu'en est-il de la guérison d'un aveugle le jour du sabbat en crachant et en faisant de la boue? Qu'en est-il de la femme païenne qui a refusé de partir tant que Jésus n'avait pas libéré sa fille d'un démon qui la tourmentait gravement? Une femme païenne. Christ a dit qu'il était là pour aller vers la maison d'Israël perdue, mais il a décidé d'aller au-delà. Nous savons qu'il n'était pas nécessaire de changer l'eau en vin lors du mariage. Femme, mon heure n'est pas encore venue, mais je vais t'honorer. Cinquième commandement. Et je vais montrer cet honneur en faisant quelque chose qui va au-delà de ce qui est nécessaire. Je pourrais continuer encore et encore. Comment et pourquoi Christ a-t-il fait tout cela? Christ s'est conditionné pour être utile, un serviteur de Dieu capable de prophétiser. Alors que nous regardons vers l'avenir, quel que soit le temps qui nous reste, quelle importance revêtent pour nous les paroles de l'apôtre Jacques? Un dernier verset. Nous l'avons lu et relu, mais j'espère qu'il touchera vos oreilles, vos cœurs et vos esprits d'une manière un peu différente, un peu plus profonde et plus puissante que par le passé. Jacques, chapitre 2, verset 14. À quoi cela sert-il? Comment pouvons-nous penser, je pourrais le dire ainsi, que nous sommes des serviteurs prophétiques ou des capables de générer des profits pour Dieu, mes frères, si nous disons que nous avons la foi et que nous n'avons pas les œuvres? La foi peut-elle le sauver? Les Écritures peuvent-elles nous sauver? L'Esprit de Dieu peut-il nous sauver? Quoi? Si un frère ou une sœur s'ennuie et manque de nourriture quotidienne, et que l'un d'entre vous leur dise, allez en paix, chauffez-vous et rassasiez-vous, sans leur donner ce qui est nécessaire à leur corps, à quoi cela sert-il? Mes frères, comment pouvons-nous profiter à Dieu de cette manière si nous ne nous conditionnons pas en accomplissant les bonnes œuvres fondamentales que Dieu exige? Le serviteur inutile n'avait rien à montrer pour lui-même, et je dirais qu'il n'a rien fait en termes de minimum, ou pas assez en termes de minimum pour obéir à la loi de Dieu, à ses écritures, rechercher, poursuivre et pratiquer la piété chaque jour de sa vie en évitant les paroles impies et en niant et rejetant totalement l'impiété qui nous entoure, et il ne s'est certainement pas conditionné par de bonnes œuvres. Il était négligent dans l'obéissance à la parole de Dieu, néglige dans ses efforts pour être comme Dieu, et néglige dans l'accomplissement des œuvres ordonnées par Dieu. Il ne s'est jamais conditionné, ne s'est jamais entraîné pour devenir un serviteur profitable. Les serviteurs profitables l'ont fait, mes frères, et c'est nous. Voici ce que Christ a entendu au sujet d'un serviteur utile, bien fait, bon et fidèle serviteur. C'est ce que Christ, j'imagine, a entendu de la part du Père. Tu as été fidèle non seulement dans les quelque chose que j'ai exigé, ma loi qui me reflète et les bonnes œuvres, mais tu as dépassé tout ce que j'ai exigé et tu m'as été utile. Je te ferai régner non seulement sur quelque chose ou sur beaucoup de choses, mais tu régneras sur toute chose pour l'éternité. Dieu recherche des serviteurs profitables qui suivent l'exemple du Christ. Il nous a donné ses Écritures, son Saint-Esprit, sa nature divine et pieuse, et ses bonnes œuvres pour que nous devenions des serviteurs profitables. Alors que nous nous tournons vers l'avenir, mes frères, préparons-nous chaque jour à obéir à la loi de Dieu, à être pieux et à accomplir les bonnes œuvres fondamentales qu'il a ordonnées. Si nous le faisons, nous serons prêts, disposés et capables d'aller littéralement au-delà.